Je vous rappelle que nous sommes avec Shiva Firouzi, iranienne et coordinatrice pédagogique au Centre de droit pénal international et d'analyse des conflits à l'Université des sciences sociales de Toulouse. Alors aujourd'hui, donc, les femmes sont en Iran et un petit peu aussi dans d'autres endroits du monde où l'islam règne, assujetties à des principes rétrogrades. Alors on va en citer quelques-uns, la dot, le mariage temporaire, la peine de la lapidation, l'inégalité du prix du sang entre les femmes et les hommes, l'interdiction de travail des femmes sans permission de leur mari, l'interdiction de voyager sans autorisation de son père ou de son mari, la diminution de l'âge légal du mariage et le port du hijab. Donc on le voit bien, les femmes ne subissent pas seulement des violences verbales, physiques ou morales, elles doivent aussi faire face à une violence institutionnelle, et vous dites dans votre mémoire, la violence est dans la loi. Prenons quelques exemples si vous le voulez bien, le voile par exemple. Je crois qu'il y a une sentence en Iran qui dit « la parure d'une femme c'est le hijab ». Et Khomeini a dit « chaque fois que dans un autobus un corps féminin frôle un corps masculin, une secousse fait vaciller l'édifice de la révolution ».
Oui, ben vraiment, c'est le produit pur de cette révolution, c'était le hijab, c'était le foulard imposé aux femmes iraniennes. Même dans aucun pays musulman, on ne voyait pas que les femmes sont obligées comme ça de porter le voile, même dans le code pénal iranien, dans l'article 308, code pénal, on voit qu'il y a des amendes pour les femmes qui respectent pas la loi islamique, mais nous avons aussi la loi vestimentaire qu'il y a coups de fouet, 74 coups de fouet pour les femmes qui respectent pas la loi islamique, c'est-à-dire porter le voile. Et vraiment, porter du voile pour la République islamique, c'est le signe de séparer les femmes iraniennes des femmes occidentaux. Et c'est pour moi, c'est une violence institutionnelle. Et croyez-moi que la plupart des femmes iraniennes ne croient pas en voile et ils veulent pas être voilées. Ils nous imposent. On est obligé de porter le voile. Et pour moi, c'est une violence physique, vraiment.
Ça veut dire qu'il y a une police des mœurs qui fait respecter cette loi-là?
Oui, moi, personnellement, j'étais obligée de plusieurs fois d'arrestation dans la rue parce que je n'ai pas respecté la loi islamique, le foulard islamique. Je n'étais pas bien voilée, bien couverte, notamment pendant les morts des imams saints. Il faut qu'on se couvre bien, sinon les polices des mœurs, ils t'arrêtent dans la rue et après, il y a des amendes, coups de fouet aussi. Ils sont partout, ils sont à l'université, ils marchent dans la rue et vraiment c'est une mauvaise situation pour les femmes.
Cette police des mœurs, comme les forces policières, elles sont composées de qui ?
Non, normalement ce sont des gens purs religieuses et qui déjà... N'oubliez pas que c'est le travail, c'est-à-dire ils sont fonctionnaires de l'État et l'État paye, il paye bien aussi aux gens qui font ça parce que c'est un travail vraiment sale, tout le monde ne le fait.
Ça veut dire qu'ils sont issus des couches populaires ou...
Normalement ce sont de couches populaires et religieuses et aussi pauvres, qui n'ont pas moyens et d'autres moyens. Donc, ils sont obligés d'accepter ce travail.
Le voile, en même temps, à lui seul, c'est le meilleur moyen de diffuser la vision islamiste du monde.
Ouais.
Pourquoi un régime islamiste comme l'Iran, la première chose qu'il fait, il voile toutes les femmes. Pourquoi il emploie tout un système paramilitaire, une armée juste pour surveiller le voile des femmes.
Alors, il y a un autre principe, ça s'appelle le mariage temporaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le mariage temporaire ?
Si, pour moi, ce type de mariage, c'est une institutionnalisation de prostituées et prostituées en Iran. Et ce type de mariage, c'est une forme de mariage chiite, c'est-à-dire... parce qu'il y a deux types de mariages chez les chiites, c'est le mariage permanent, c'est-à-dire un homme peut prendre jusqu'à quatre femmes, et ce qui n'est pas bienvenu en Iran, parce que les Iraniens ne sont pas polygames, ils n'acceptent pas la polygamie. Donc, comme le mariage, comme la relation sexuelle avant le mariage est interdite, donc ils sont obligés d'inventer d'autres choses, c'est le mariage temporaire, c'est-à-dire se marier avec quelqu'un pour 5 minutes, pour 4 minutes, pour je sais pas, un an, 2 ans. Et après, c'est très facile. Ils vont chez un mollah. Après, le mariage, c'est très rapide. Et l'homme, il donne l'argent aux femmes. Et ils se marient pour le moment qu'ils ont besoin de relations sexuelles. C'est le mariage plaisir qu'ils ont inventé. Et encore, je vous dis que ça se fait pas dans toutes les couches sociales. Malheureusement, maintenant, j'ai entendu que tout le monde le fait parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens, parce qu'il y a des polices de mœurs qui arrêtent les gens dans la rue et ils sont obligés de faire le mariage temporaire pour montrer voilà, l'égalité de leur acte.
Tout le monde veut fuir d'ici, car la vie est très dure. Tout le monde cherche un moyen pour s'enfuir.
Quel moyen?
Ne parlons pas de politique. Ils vont venir nous emmerder. Ils vont venir nous couper la tête.
Ils sont de plus en plus durs avec nous maintenant.
Regardez à l'instant même devant l'entrée ici. La milice Basij est là. C'est eux qu'il faut filmer.
En venant ici, on a vu 4 bus remplis de soldats Basiji et de drapeaux.
Qu'est-ce qu'ils vous veulent?
Ils voulaient fouiller nos sacs, mais on est vite partis.
Oui, ils nous fouillent pour voir ce qu'on a avec nous. Ils ne laissent pas les garçons et les filles venir ensemble ici. Les filles marchent devant et on les suit à quelques mètres.
Et le mariage temporaire... Aussi, ce n'est pas fait pour les filles vierges parce que dans le code pénal, code civil iranien, une fille vierge doit avoir autorisation de son père. Et une fille doit se marier vierge, sinon c'est l'annulation de mariage.
Alors, dans le même temps, ce qu'il faut préciser, c'est que l'adultère est considéré comme un crime. Ça veut dire que quelqu'un qui se prêterait à l'adultère risque la lapidation, si j'ai bien compris.
Oui, exactement. Il y a la lapidation en Iran, mais à l'époque de Khatami, président Khatami, qu'on disait président modéré, il y avait 60 cas de lapidation en Iran. Ils ont exécuté 60 ans.
Alors, ça concerne les femmes et les hommes, mais sauf qu'avec le mariage temporaire, les hommes peuvent y échapper.
Exactement, exactement, c'est ça le problème. Aussi, ça concerne les couches pauvres de société, parce que imaginez si je fais ce type de relation, et mon père il a l'argent, donc il paye à l'État, il peut sauver ma vie. Ou voilà, ma famille, comme ils ont d'argent, ils peuvent sauver ma vie. Mais quelqu'un qui n'a pas d'argent, il serait lapidé.
Alors, on parlait du mariage. Il y a eu une diminution de l'âge légal du mariage. À quel âge, aujourd'hui, on a le droit de se marier avec une fille en Iran?
Dans le code civil iranien, on voit que l'âge légal a augmenté à 13 ans, parce qu'après la révolution islamique, ils ont dit à 9 ans pour les filles et 15 ans pour les garçons. Maintenant, ils ont écrit 13 ans. Mais après, ils ont écrit si les parents sont d'accord, même on peut baisser l'âge de mariage 9 ans pour les filles. Ce qui est vraiment, c'est un crime. Une fille de 9 ans, comment elle peut se marier?
La fontaine des martyrs, au milieu du grand cimetière de Téhéran. L'eau rougie symbolise le sang versé par les combattants iraniens pour faire triompher la République islamique. Les familles de martyrs viennent toutes les fins de semaine honorer leurs morts. Les soldats morts pour l'islam, on les appelle chez les chiites des martyrs. Ils sont assurés d'aller au paradis. La présence de la fontaine est devenue familière aux familles. elle ne s'y attarde guère. Elle se dirige d'un bon pas au-delà de la fontaine, vers les tombes, pour reprendre leur grande conversation avec leurs morts. Le culte des morts et le goût de la douleur est essentiel chez les chiites. Ils pleurent leur dernier prophète disparu qui doit revenir un jour. Et chaque mère s'identifie à Fatima, dont le fils, le troisième imam, est mort martyr lui aussi.
Alors, il y a bien d'autres exemples aujourd'hui, notamment l'inégalité du prix du sang entre les femmes et les hommes. On pourrait en parler pendant des heures, j'imagine. Par contre, si elles sont victimes, les femmes, elles ont été aussi vecteurs de la religion, et notamment au travers de la figure de la mère, et plus particulièrement celle de Fatima pour les religieux. La femme doit être avant tout une mère et une bonne épouse.
Oui, exactement. Et c'est une société patriarcale. Une femme doit être une bonne épouse, une bonne sœur, et une bonne mère, c'est, on voit dans la constitution iranienne, la première tâche d'une femme, c'est garder son foyer familial.
Il y a un slogan qui apparaît sur certains murs d'Iran, et vous l'avez noté dans votre mémoire, qui dit « Le djihad d'une femme, c'est de bien garder son mari ».
Oui, exactement. C'est partout en Iran, on dit une femme doit garder son mari. S'il garde bien son mari, il va dans le paradis. Donc, vous voyez qu'après la révolution islamique, ils ont réussi à inculquer les femmes que votre tâche, c'est être une mère et une bonne épouse.
Alors, dans l'islam et plus particulièrement aussi en Iran, il y a aussi la notion du martyr.
La tradition martyr aussi, ça vient de chiite. C'est le produit pur de chiite qui part tout le temps. Un bon musulman doit être martyr et il va au paradis. Durant la guerre en Irak, c'est une histoire très amère dans l'histoire de l'Iran. Et je comprends un petit peu la stratégie de l'État, parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens. Si vous voulez, l'Iran était isolé sur la scène internationale et tout le monde était avec l'Irak. Ils ont utilisé la question de martyr pour encourager le peuple de faire la guerre contre l'Irak. Et cette fois-ci, les mollahs, pendant la guerre, les mollahs, ils ont appuyé sur le sentiment nationaliste iranien. C'était au profit de Mollah de parler d'être iranienne et être différente avec les Arabes.
Ces hommes sont les volontaires de la mort, volontaires pour le front de la guerre contre l'Irak, mais aussi volontaires pour faire triompher la révolution islamique iranienne au-delà de ses frontières. Ils se veulent martyrs de la révolution islamique, une idéologie qui nous échappe en Occident, mais qui est pourtant à la base de la guerre que mène aujourd'hui l'Iran contre son voisin, l'Irak. Il est parti à 12 ans pour la guerre Iran-Irak. Pour lui, cela signifiait se battre du côté de la vérité contre le mensonge. Il était complètement imprégné de la philosophie de la révolution et conscient du danger.
Mon frère, malgré son jeune âge, avait un idéal très noble. Il a perdu la vie pour la bonne cause.
Vous dites que la guerre contre l'Irak a été l'occasion de voir apparaître une fracture identitaire entre le nationalisme arabe et l'identité iranienne.
Oui, et justement, les mollahs appuyaient trop sur ce sujet que vous n'oubliez pas, vous êtes iranienne. Il faut que vous défendez votre territoire. En plus, vous êtes chiite, vous n'êtes pas sunnite. C'est en appuyant sur ces points qu'il y a beaucoup de jeunes qui volontairement ils sont allés en guerre et ils sont devenus martyrs.
Est-ce qu'il y a eu des changements notables On a pu constater, par exemple, que les femmes avaient accès aux études, peut-être de façon un petit peu plus massive.
Ce qui a apparence de République islamique, c'est exactement ça. Tout le monde me dit, les filles vont à l'université, on voit que la présence des filles à la société, que cette apparence, c'est vraiment formel. Et au fond, les filles, ils n'ont pas vraiment une vraie place au niveau du travail dans la société. Et ils vont tous à l'université, continuent des études parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens à être actifs dans la société. Oui, ils sont tous à l'université, mais après, s'ils finissent leurs études, il faut qu'ils attendent de se marier. Ils n'ont pas d'autres solutions.
Ma famille est morte. J'ai perdu mes enfants, j'ai perdu aussi ma maison. Les gardiens de la Révolution vont rapidement entourer ce survivant et couvrir ses plaintes par des cris de vengeance, guerre, guerre, jusqu'à la victoire.
L'Iran pensait convertir les Irakiens à la Révolution islamique, surtout les chiites, comme eux, majoritaires dans le pays. Mais en Irak, on est d'abord arabe et nationaliste avant d'être islamique.
Behesht-e Zahra, un des rares loisirs du peuple de Téhéran. Aller révérer les morts, comme si chaque vendredi était une Toussaint. Surtout dans le carré des martyrs, ceux qui sont tombés dans ce conflit de 8 ans qu'ici on appelle la guerre imposée.
Est-ce qu'il y a des mouvements, entre guillemets, féministes en Iran ?
Oui, il y a des mouvements féministes, mais encore, moi je trouve personnellement, c'est bien dommage, c'est toujours dans le cadre de l'islam. C'est-à-dire... Les femmes iraniennes, mais je comprends que c'est difficile là-bas parce que l'institution du pays, c'est l'islam. Ils n'ont pas d'autre choix. Mais et après, je parle avec les plupart des féministes, ils disent que notre problème, ce n'est pas le foulard. Le foulard, c'est un signe, c'est le premier pas. Si une femme n'arrive pas à maîtriser son corps, comment après ils peuvent travailler dans la société? Parce qu'il ne faut pas trouver tout dans la religion. La religion, actuellement, ne peut pas répondre à toutes ces questions-là. Vraiment, il faut avoir des lois et des institutions égalitaires. Nous avons besoin des lois.
Cet homme sous un pommier, c'est le chef le plus prestigieux de la religion chiite, l'adversaire le plus acharné du Shah d'Iran, c'est l'ayatollah Khomeini, dans sa retraite de Nofle-le-Château, après 15 ans d'exil passé en Irak.
On ne le sait pas beaucoup, mais l'Iran est composé de plusieurs ethnies. Donc, quelles sont ces ethnies et est-ce que ces minorités sont prises en compte par le pouvoir?
Ce que je vous dis, je vous réponds vraiment statistiquement n'est pas très correct parce que les statistiques des mollahs à l'époque après la révolution islamique, c'est pas une vraie statistique. Et le gouvernement a peur de vraiment montrer les vraies statistiques en Iran. Oui, l'Iran a mélangé des Kurdes, des Turcs, des Perses, des Baloutches, même 2% des Arabes, on dit 2%, je ne sais pas exactement, peut-être plus. Mais s'ils parlent des Kurdes, le gouvernement iranien est en danger parce qu'il vaut mieux ne pas donner les statistiques sur les Kurdes. On dit qu'il y a 40 millions de Turcs en Iran, mais presque moitié de la population iranienne, mais l'État ne parle pas de ça. Et l'État iranien ne respecte pas des différentes ethnies, différentes cultures, différentes langues.
Quelle est la situation des Kurdes? J'imagine qu'avec autant de Turcs, ça doit être un petit peu difficile, non?
C'est très difficile. Il y a un conflit entre les Turcs et les Kurdes aussi. C'est l'État qui a créé ce conflit. Ils ont envoyé les soldats turcs de leur village et de leur ville pour faire face devant les Kurdes. Et même on voit que les Turcs et les Kurdes ils vivent ensemble et l'État, ils veulent vraiment qu'ils soient hostiles, les différentes ethnies entre eux, et qu'ils soient hostiles entre eux. Et les Kurdes, ils souffrent parce qu'ils n'ont pas le travail en Iran et la plupart, ils font le travail illégaux. Et ils sont bannis de tous les droits.
Nous devons continuer de nous intéresser à la spiritualité et aux bienfaits de Dieu. À une époque où la jeunesse du monde doit affronter le matérialisme, où les jeunes doivent se prévaloir contre l'agitation. Les jeunes ne savent pas toujours comment penser.